Bonjour, vous écoutez RDOA 107.5 sur la bande FM et sur internet rdwa.fr. Pour moi, la fête de la laine à Cray, c'est un événement à ne pas rater. Le deuxième week-end de février, c'est l'occasion de voir de belles choses et du beau monde. Cette année, je suis allée y promener mon micro et j'ai demandé à ceux qui l'acceptaient de me donner leur définition de la filière textile. Écoutez voir.
Si je vous dis filière textile, oulala.
Orla.
Oula. Définir la filière textile.
Ah bah il faudrait demander à...
Je ne suis pas spécialiste de la filière textile, moi.
C'est super riche comme domaine, alors c'est pas évident. Mais...
La réponse qui me vient, c'est que ça démarre de la terre. La terre, pas la boule, hein, la matière terre. Et ça va jusqu'à l'humain, jusqu'aux hommes. Après, il y a les bêtes, et ensuite, je vois l'homme qui transforme avec différents procédés. Ça pourrait faire un cycle. Pour moi, dans le filière, il y a la notion de filiation, il y a la notion de processus.
On trouve ici de plus en plus de rouets pour filer la laine. Et ils vont ponctuer notre balade.
Si je pense à la filière textile, bon, j'imagine des champs de coton, des troupeaux de brebis, du synthétique aussi, des trucs comme ça. On fabrique des fils, des matières, des trucs qui servent à faire des étoffes, quoi, des trucs légers là, qu'on porte sur soi ou qu'on met dans nos maisons.
Moi, déjà, c'est une filière multiple dans laquelle il y a énormément d'intervenants différents. C'est ça qui est intéressant, avec des savoir-faire vraiment précis, des savoir-faire qui se perdent aussi, qui sont difficiles à retrouver. Et alors, la filière textile, du côté artisanal, c'est différent de la filière industrielle, mais je pense que c'est sur un essor nouveau par rapport à ce qui c'était il y a quelques années. C'est des pratiques différentes maintenant.
Je suis un peu surprise. Je ne pensais pas que la question était si difficile. Voyons voir. Et si je leur demandais quelle est leur place dans cette filière textile ?
Moi, me concernant, c'est le tissage.
Donc tu es un des derniers maillons de la chaîne ?
Ouais. Enfin, après moi, il peut aussi y avoir des...
Ben, après toi,
hein, des petits brodeurs qui ajoutent,
oui, bien sûr.
Des petits...
Ben moi, ma place, c'est d'élever des brebis et d'essayer de gagner ma vie, non pas avec la viande de mes brebis et le lait de mes brebis, ce que j'ai déjà fait par le passé, mais avec la laine des brebis. Du coup, je me trouve un peu à deux extrémités de la chaîne, parce que je ne sais pas transformer, je n'ai pas les moyens de transformer, je ne tricote pas, je ne suis pas tisserand, ni feutrier, ni quoi que ce soit. Mais je sais que si je veux gagner un petit peu de sous avec la laine de mes brebis, il va falloir que je vende les produits finis. Parce que si j'envoie ma laine dans le marché, quoi, ben elle me sera payée trois fois rien. Moi, mon idée, c'est de gagner ma vie avec ça, donc d'essayer de récupérer une partie de la plus-value. Donc je me mets commerçant pour vendre des vêtements que je fais faire par d'autres.
Moi, je suis tisserand.
Avant vous, il y a quoi ?
Ben, y a les producteurs, les filateurs, les teinturiers, il y a l'éleveur, le tondeur. On va pas mettre le boucher dedans, mais il y a aussi. Celui qui s'occupe de laver les toisons, il y a aussi celui qui trie les toisons. Enfin, il y a du monde avant d'arriver au tisserand. C'est vrai, nous, on est en bout de chaîne, en fait. Pas en bout de chaîne. On fait les tissus, après il y a la couture. Le dernier de la chaîne, c'est le client qui achète. Voilà.
Voilà.
À résumer, c'est simple. Mais ça fait du monde. C'est comme quand on regarde les chaînes alimentaires.
Je dois faire partie peut-être des créatrices textiles, c'est-à-dire que l'art textile, c'est quelque chose qui n'est pas encore trop reconnu en Europe, enfin en France en tout cas. C'est un truc de gonzesse. Donc on peut comprendre pourquoi ça n'a pas plus de notoriété. Ça ne me pose pas de problème parce que je ne cherche ni la reconnaissance, ni à faire de l'argent avec. C'est ma façon de trouver mon équilibre et de me sentir heureuse, c'est ça.
Je ne sais pas trop si ça s'éclaircit ou si ça se complique. Bon, on pourrait peut-être commencer par le commencement. Avec les éleveurs de moutons, hein, c'est bien ça. Je vous invite à me suivre à une conférence de Vincent Ducomet, installé à Barnave avec 160 brebis, et Margot Jobduval.
Nous, on est installé à Glandage, donc c'est dans le Haut-Diois, une petite ferme diversifiée où voilà, on a des brebis, des légumes, des petits fruits. Ce sont des brebis mérinos qu'on a, et dont on transforme la laine. Nous, on a pris des mérinos parce que on avait envie de valoriser justement la laine de nos brebis, de faire du fil. On a choisi aussi une race dont la laine s'adaptait bien à la transformation en fil. C'était facile en fait finalement le mérinos, facile à trouver. Et il y a un côté où collectivement aussi, il y avait plusieurs éleveurs en fait, qui étaient installés en brebis mérinos et qui transformaient leur laine pas très loin de chez nous. Et donc c'est parce qu'il y avait ces gens-là que nous on s'est installés en brebis mérinos, parce qu'il y avait la possibilité de s'associer à eux pour transformer, pour faire travailler et puis pour valoriser derrière. Donc on a un élevage qui a plusieurs fins. En fait, nous on arrive de Bolivie, on a passé 7 ans là-bas et on travaillait avec des sociétés andines traditionnelles où la tradition textile elle est encore très très forte. Et voilà, les gens valorisent toute la laine de leurs brebis localement. Et c'était quelque chose qui nous avait beaucoup marqué en fait, c'était les différentes fins qui étaient données à la brebis. Ce qu'on valorisait avant tout, c'était tout ce qu'elle pouvait donner, toutes les richesses qu'elle donnait de son vivant. Donc il y avait le fumier qui fait pour les cultures. Et la laine qu'on récupérait chaque année. Pour nous, c'était important de garder cet esprit-là de l'agriculture paysanne, où en fait, ce qu'on produit, c'est pas juste de la nourriture, c'est aussi un artisanat qui est la prolongation directe de l'agriculture. Alors, certains, ça va être plutôt des contenants, et c'est des gens qui font de la vannerie, des objets, du bois. Pour nous, c'était la laine qu'on avait envie de mettre en prolongement de l'activité agricole.
Déjà, on peut partir d'une réalité. Tous les éleveurs de brebis produisent de la laine. La laine de brebis, ça, c'est quelque chose qui pousse continuellement, alors que toutes les autres fibres tombent. Il y a des mues, pas chez la brebis. Et depuis des temps immémoriaux, donc la brebis, c'est une bête à laine, et qu'on le veuille ou non. La laine donc, de brebis, elle vaut à peu près plus rien sur le marché international. Au mieux, un euro le kilo, pour vous donner une idée. Pour l'éleveur classique, c'est plutôt un handicap qu'autre chose, la laine. Et malgré tout, c'est rare de rencontrer des éleveurs ovins qui ne sont pas extrêmement tristes, quelque part, que cette laine ne vale plus rien. En dehors du fait que si ça rapportait de l'argent, ça serait du bien à leurs finances, l'éleveur de brebis, en général, il aime la laine, quelque part. À un niveau ou à un autre, il aime ça. Dans notre démarche, il y a aussi un besoin de dire, quand même, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec cette laine. Pour arriver à en faire quelque chose, il faut la transformer. Pour que ça ait une incidence économique sur l'exploitation, il faut arriver à s'approprier un peu la marge, les gens qui vendent, etc. Parce que les produits en laine, il y en a quand même encore un peu, ils valent assez cher. En pratiquant la vente directe, on peut arriver à rentabiliser une forme d'activité qui consiste soit à fabriquer soi-même les choses, soit à les faire fabriquer par des ateliers qui font du tricot ou qui font du tissage, etc.
Cette partie de transformation, il y a un truc auquel on a tout de suite eu à se confronter, c'est déjà la multiplicité des étapes. La toison, elle est d'abord sur la brebis et il faut déjà la tondre et il faut savoir la tondre de façon à récupérer la laine. Les tondeurs, il y en a beaucoup qui ont fait tout un travail pour se former, pour tondre justement en vue de récupérer la laine. L'acte de la tonte, il n'est pas anodin déjà. Il faut aussi y avoir un tondeur qui joue le jeu d'organiser le chantier de tonte pour que la laine soit récupérée dans de bonnes conditions, que les brebis, on ne les traîne pas sur la paille pendant la tonte, que la laine soit propre, qu'elle soit bien tondue, qu'elle soit triée. Et puis ensuite, une fois qu'elle est tondue, il y a à peu près, je crois qu'il y a au moins 10 étapes pour faire du fil. Et ces 10 étapes, il faut trouver à les faire, trouver le circuit où les faire et avoir le volume pour les faire. En France, il ne reste plus beaucoup d'unités de transformation de la laine. Tout le circuit de la laine peignée, il a disparu de France. Ça, au plus près, on le trouve en Italie. Et sinon, il reste tout le circuit de la laine cardée en France, là, qu'on peut refaire. Et souvent, ça ne se situe pas dans une seule unité. Le lavage, on le fait en Haute-Loire, à la filature Laurent qui est à Sogues. Ensuite, si on veut récupérer des nappes cardées, on fait ça en Isère, chez Yannick, qui est installé à côté de Cordéac. Et le fil, on le fait faire dans la Creuse chez Terrad. Le retordage se fera à un autre endroit, la teinture se fait à un autre endroit. Donc c'est une multiplicité d'étapes qu'il faut maîtriser pour pouvoir les faire faire. C'est aussi beaucoup de... pas mal de kilomètres de logistique. Pour les faire, il faut un certain volume, à part des micro-unités qui sont montées récemment, mais qui du coup aussi ont un coût élevé. Les usines de lavage prennent généralement jamais en dessous de 100 kg, et voire en Italie, la quantité minimale pour faire transformer, c'est une tonne. Donc ça veut dire qu'il faut réunir cette quantité, puis soit on l'a tout seul, mais à ce moment-là, on a aussi les finances pour avancer le coût de transformation. Soit on se met à plusieurs. Nous, c'est ce qu'on a fait cette année. On s'est regroupé à 11 éleveurs pour envoyer 1,5 tonne de laine. Être travaillé en Italie, dans les usines où ils font encore le peignage. Ça veut dire aussi qu'il faut être à plusieurs et s'entendre. Du coup, personne ne retrouve sa toison. Mais ce qu'on retrouve aussi, c'est un produit qui nous appartient à tous et qui est le résultat d'une réflexion collective sur la laine et d'un travail collectif de mise en commun, de suivi commun, d'entente commune sur une transformation que nous, on ne fait pas, mais sur laquelle on doit avoir un œil.
Moi, c'est un peu l'opposé de ça, parce que je travaille seul. D'une part, parce que j'ai une race de brebis qui n'est pas très courante, c'est la bisée. Sa laine, elle est particulière, donc je ne pourrais travailler qu'avec d'autres éleveurs de bisée. J'ai une démarche un peu particulière, parce que dans mon élevage, il n'y a pas de finalité viande. Mon but, c'est de faire de l'élevage tout en ne tuant pas les animaux. Pour moi, ce n'est pas correct de tuer les animaux qu'on élève, ça c'est mon point de vue. J'ai un pâturage qui est relativement pauvre. Pour produire de la viande, il fallait que je complémente mon pâturage avec des céréales ou avec des aliments achetés à l'extérieur. Maintenant, je n'ai plus besoin de ça, quoi. Le troupeau, il est à peu près autonome sur son territoire. Il a besoin d'un peu de foin pour faire la soudure de l'hiver pendant un mois ou deux mois. Pendant quelques années, j'ai quand même produit mon renouvellement, c'est-à-dire que les animaux qui meurent étaient remplacés sur la ferme. Et ce système-là, je l'ai abandonné maintenant. Il n'y a plus du tout de reproduction sur le troupeau. J'ai plus le bélier et j'achète le renouvellement à l'extérieur. Donc c'est vraiment un fonctionnement assez particulier, quoi. Et la laine, j'ai à peu près 200 kg de laine par an, brut. Après lavage, je me retrouve avec une centaine de kilos de laine à faire transformer. Donc je suis dans la limite inférieure de ce qu'on arrive à faire faire par des filatures classiques. En dessous de 100 kg, en général, ils font la grimace. Donc je fais faire du fil et après je fais faire du tissu. C'est pareil, pour faire le tissu, il y a aussi des notions de quantité par rapport à des machines qui sont quand même des machines industrielles, même si c'est des petites machines. Pour faire du tissu, il y a des fils de chaîne, il y a des fils de trame. Pour les fils de chaîne, il faut un fil très solide et il faut une quantité de bobines de fil suffisante pour lancer cette fabrication. Donc si on n'a que 20 ou 30 kg de fil, on ne pourra pas faire ça. Alors à ce moment-là, on travaille en général sur une chaîne qui est faite avec une autre laine. Et puis on va faire une portion avec la laine de monsieur machin, une portion avec la laine de monsieur truc, on peut faire ça. Il y a une deuxième étape, c'est le foulonnage, qui permet de faire ce qu'on appelle du drap. Le foulon, c'est une machine où le tissu se dévide entre des rouleaux en bois qu'il écrase, qu'il travaille dans l'eau chaude. Donc ça feutre la surface du tissu, comme ça emmêle les fibres. On obtient un tissu qui est beaucoup plus coupe-vent, beaucoup plus imperméable. Traditionnellement, le drap, c'était utilisé pour faire tous les manteaux, les capes, pour tous les gens qui travaillaient dehors, etc. Voilà, je fais faire aussi du fil à tricoter, mais alors c'est du fil qui est cardé. C'est une opération qui est plus simple que le peignage et qui donne un fil un peu moins lisse, un peu plus volumineux. Avec ça, je fais faire du tricot. Après, il y a encore une phase, c'est la confection. Pour faire des vêtements avec ça. Je propose après une gamme de produits prêts à porter et aussi un peu de fil à tricoter. Actuellement, on commence à pouvoir se nourrir avec des produits bio, des produits locaux, des choses qui respectent l'environnement. Mais pour l'habillement, on n'a pas grand-chose, quoi. Il y a quelques filières avec du coton bio, du chanvre, mais assez peu de laine finalement. Et pourtant la laine, ça paraîtrait assez évident parce qu'on en produit très facilement partout, y compris chez nous. Ce serait bien que les gens se rappellent qu'on peut s'habiller avec de la laine. Quand on a un stand comme ça sur un marché avec des trucs en laine, il y a plein de gens qui trouvent ça très rigolo. Ça leur paraît incongru, quoi. C'est une matière qui est chaude, qui est résistante, qui a plein de qualités. Et qui peut être produite avec un minimum de nuisances à l'environnement. Il n'y a pas besoin d'irrigation, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits chimiques. On peut même ne pas en utiliser du tout. À mon avis, c'est quelque chose que le consommateur devrait se réapproprier pour s'habiller. de manière à utiliser beaucoup moins de matières synthétiques, de coton produit dans le territoire dévasté par la monoculture du coton chimique, etc.
Et puis après, sur toute la confection, en fait, dans ta démarche et dans la démarche des éleveurs qui cherchent à valoriser leur laine, il y a aussi l'idée de ne pas s'inscrire dans cette filière industrielle qui utilise essentiellement du synthétique et qui nous permet de nous habiller avec des sacs plastiques sur le dos. En plus, c'est avec un coût humain qui est inimaginable. Tout ce qu'on porte aujourd'hui, tout prêt à porter, des grandes chaînes, dans le meilleur des cas, c'est fait en Chine et dans le pire des cas, c'est fait au Bangladesh. Dans des conditions, je pense que même si on, je pense un peu dessus, on n'est pas en mesure de saisir l'abomination qu'il y a là-dedans. Quoi. Donc, il y a aussi une démarche forte de se dire que, en faisant tricoter un pull en France, on s'oppose fermement à certains modes de production et de négation de l'humain. Quoi. Et finalement, on n'a peut-être pas besoin d'un 11e jean dans le placard. Voilà, tous ces habits qu'on accumule, ils sont faits à des coûts environnementaux et humains qui ne sont pas tolérables. Mais de repartir sur des productions en fait, où la quantité elle est limitée, mais la qualité elle fait qu'un pull il dure 10 ans. Et, du coup, avec la laine, on est forcément dans un rapport différent à l'usage des objets aussi.
Vous écoutez Erdiwa, nous sommes toujours à la fête de la laine de Cray et nous poursuivons avec les réactions de ceux qui assistaient à la conférence avec des éleveurs de moutons.
J'ai une question technique, c'est quoi la différence entre le cardage et le
peignage,
voilà.
C'est une fois que la toison est lavée, le cardage consiste à passer la laine entre deux rouleaux, des rouleaux armés de pointes qui vont en fait légèrement paralléliser les fibres. Ça fait une grosse nappe où voilà, on peut tirer des mèches et faire du fil. Et le peignage, c'est une opération où là, on passe la laine très lentement entre des peignes. Et du coup, les fibres sont complètement parallélisées, elles s'étirent beaucoup plus. Pour pouvoir faire du peignage, il faut avoir des fibres d'au moins 6 cm. Toutes les fibres qui sont en dessous de 6 cm, elles tombent. On arrive à un ruban. Dans les deux opérations, on peut faire du fil ou du feutre. On nous a imposé aussi un modèle de pensée où on devient professionnel et technique dans un domaine. Donc quand on est éleveur de brebis pour la viande, on sait exactement quelle quantité de céréales il faut lui donner. On sait conduire son tracteur et faire les foins, mais on a fait comprendre depuis 50 ans qu'en fait, si on est éleveur de brebis, on fait ça, mais on va pas non plus s'amuser à tricoter, faire d'autres trucs. Il faut être pro dans ce qu'on fait, quoi. Et spécialisé d'être éleveur, on ne s'est pas excluant avec le fait de savoir s'occuper de sa laine et de la travailler. Il y a quelques éleveuses qui d'ailleurs se mettent ensemble pour travailler la laine, et puis ensuite elles ont chacune un savoir-faire artisanal qui lui est propre. Il y en a une qui tricote et qui fait des couleurs végétales. Il y en a une qui feutre et il y en a une qui tisse. Toutes les trois, elles sont aussi éleveuses, mais elles savent faire toutes ces choses-là.
C'est bien gentil, votre truc. Mais l'économique dans tout ça, vous arrivez à gagner votre vie avec cette activité ?
Je peux répondre en partie parce que j'ai un peu de recul. Là, moi, ça fait maintenant à peu près 4-5 ans que je fais ça. C'est pas, j'en suis pas encore. Je pense que tout le monde fait les choses un peu progressivement. Donc moi aussi, je le fais comme ça et j'ai pas fini de monter parce que c'est seulement l'année dernière que j'ai transformé toute ma laine. Maintenant, j'ai du stock de produits, mais pour le moment, je commercialise pas chaque année la laine d'une année. Donc ça, il faut que je progresse sur la commercialisation. Je ne peux pas encore répondre tout à fait finement là-dessus. Il y a des coûts assez importants. Mon objectif, ça serait de rentabiliser le kilo de laine brute à 15 euros. Dans le prix de mes produits, c'est comme ça que je le vois. Avec un troupeau comme le mien, ça fait quand même pas... c'est pas colossal, hein. Je vais gagner 3000 euros par an, quoi. Mais c'est pas rien non plus. De toute façon, c'est faut pas rêver. Pour un éleveur ovin actuellement, la laine ne lui permettra pas de se passer des primes. Actuellement, les éleveurs ovins, ils vivent quand même majoritairement des primes. On ne peut pas échapper à ça, quoi.
On est associé dans un magasin de producteurs Il y a quelques représentants ici, donc Hubert qui fait des lapins angora, Bernadette qui fait des alpagas, et puis il y a deux autres éleveurs qui ont des chèvres mohair et cachemire. Donc c'est un magasin de producteurs qui est dans les Hautes-Alpes où le noyau dur, voilà, ce sont des éleveurs de bêtes à laine. Et puis après, on accueille en dépôt-vente des producteurs et artisans locaux pour commercialiser aussi et avoir une gamme un peu plus complète. Mais c'est un magasin donc, qui tourne depuis quasi 20 ans et qui est assez connu dans le monde des tricoteuses parce que voilà, il y a une grande gamme de laine différente avec des couleurs, en fait, et puis avec une éthique de production aussi, c'est des laines d'ici. Nos pelotes, je les vends à 7 euros les chevaux de 100 grammes, donc à 70 euros le kilo. Et j'ai fait les calculs sur ces 70 euros le kilo, en fait, je laisse un tiers au magasin pour le faire fonctionner, pour qu'il soit ouvert tout le temps, pour payer la salariée et demi, le local, on est ouvert tous les jours. Sauf le 25 décembre et le 1er janvier. En fait, on laisse 25% de marge au magasin. Mais moi, je compte 30% parce que du coup, j'y vais aussi un jour par semaine, plus un dimanche par mois, plus un jour férié sur 5. 30%, c'est la transformation, les trajets pour amener la laine dans les baronnies, pour aller la chercher, pour payer les différentes étapes. Et donc, il reste un peu moins, en fait, un petit peu moins de 30%. Pour ma poche, donc il reste à peu près en gros entre 2 euros et 2,50 euros par écheveau pour payer notre travail d'éleveur et le temps qu'on y a passé. Voilà, dans notre cas, notre pari il se fait sur une petite ferme avec des choses diversifiées. On n'a pas le recul de toute façon pour tirer des conclusions sur le succès économique de notre pari. Et peut-être qu'on n'aura pas de conclusion là-dessus. Nous, on avait à cœur une idée de cohérence technique globale, quoi. Ben, je pense qu'elle peut se payer assez cher en termes d'énergie et de temps de travail. Voilà, on a fait aussi ce pari de ne pas rentrer dans le schéma classique peut-être du Haut-Diois où ce sont que des agneaux de bergerie qui sont élevés aux céréales. Nous, on les élève dehors. Alors, ça nous impose de les parquer, de changer de parc, de ne pas les perdre en laissant la porte du parc ouverte comme cette année, et de ne pas avoir à leur courir derrière une journée entière. Et on l'a fait authentique, quoi. On le fait une fois en général, je pense, cette erreur. Hein. Après, on ne la fait plus. Hein. Parce que forcément, on n'avait pas mis de cloche aux agneaux, donc c'était pas possible qu'ils s'échappent. Donc on a couru vachement longtemps quand même. Hein. J'ai mieux connu le territoire de notre ferme aussi, si c'était bien.
Il y a aussi une notion qui est difficile à quantifier, c'est que effectivement, plus on rationalise l'activité, plus elle est rentable en général, quoi, ce serait mieux. Par contre, avec des choses moins rationnelles, on a aussi des bons moments, je veux dire qu'on fait des choses plus intéressantes aussi. Par exemple, toutes ces opérations pour faire transformer la laine ou pour la transformer soi-même, si on n'a aucun intérêt à rencontrer tous ces gens ou à être devant son métier à tisser et à faire des belles choses, bah, c'est pas la peine, quoi. Mais si on aime faire ça, on perd pas son temps, quoi.
Il n'y a pas que la durée du travail, il y a la qualité du travail.
Ouais, quand même. Ouais.
Ça joue beaucoup. Hein.
Et on ne va pas terminer une conférence comme ça sans parler des gros mots. Le loulou.
Pour moi, ça ne me dérange pas de ne pas en parler. Mais...
Non, on s'est installé à Glandage au moment où les deux élevages arrêtaient. Donc on savait qu'il y avait le loup. D'avoir un petit troupeau, ça avait aussi du sens. Même si on va augmenter un petit peu, on aura au maximum 100 bêtes parce que le territoire autour ne permet pas d'en nourrir plus. Et on a pris le parti de faire en sorte nous de les rentrer tous les soirs. En fait, on s'est installé dans un contexte où le loup était déjà là et où notre réflexion elle portait sur comment construire un système où on est moins possible vulnérable au loup, quoi. Donc il y a une charge de travail en plus. Tous les matins, on les sort et tous les soirs, on les rentre. Et en même temps, c'est un moment qui est plaisant parce que c'est un moment où on sort les bêtes, où on sort avec elles, on les voit, on, On marche, nous on marche entre 10 minutes et une demi-heure, trois quarts d'heure pour aller dans les endroits où on les laisse. Et donc c'est aussi des moments où on est avec elles. Quoi. Et c'est peut-être... je me demande, c'est pas un des meilleurs moments de la journée d'ailleurs. Enfin, c'est un peu le cadeau du jour, quoi, aussi, de cette sortie-là.
Écoutez le témoignage d'une éleveuse qui était dans la salle, donc loin du micro. Je vais vous demander un poil d'agneau d'attention pour écouter ce qu'elle dit.
Ce que je me rends compte, c'est qu'à la base, voilà, j'aime les produits, j'aime le travail, j'aime la tonte. Une fois encore, une compétence des vendeuses, ça rend tout ça hyper intéressant. Et c'est logique qu'on s'intéresse à plein de choses, mais du coup, des fois, c'est aussi difficile d'être compétent dans tous ces domaines-là.
Ces éleveurs de moutons peuvent se permettre de ne pas parler du loup. Mais ils ne peuvent pas omettre de parler de l'association L'Atelier.
Sans l'atelier, sans cette association, on aurait été vachement démunis, quoi. Dans le milieu des tondeurs, tout le travail de reformation qu'il y a eu avec les tondeurs pour réapprendre à tenir compte de la laine quand on tond. L'atelier a été vachement moteur pour poser ces questions-là sur la table, pour accompagner les gens. Là, même des projets de reprise de filature, comme ça se fait dans les Pyrénées. Enfin, il y a un boulot énorme parce que en fait, tout le tissu textile il a été complètement déstructuré en Europe. Voilà, c'est des choses qui démarrent. Elles démarrent forcément petitement et elles démarrent forcément collectivement, ou en tout cas, c'est jamais un individu tout seul qui va remonter une filature ou un éleveur tout seul qui va arriver tout seul à tout transformer, tout faire de sa laine. En fait, il y a forcément besoin d'autres et c'est là où l'atelier, c'est la structure qui a permis à tous les gens qui se sont posés l'action de la laine de faire des liens à un moment, de faire du réseau, quoi.
Eh bien, nous allons maintenant écouter Marie-Thérèse Paulin.
Je m'occupe de la coordination d'une association qui s'appelle Atelier Laine d'Europe. C'est tout un réseau de gens qui produisent de la laine, qui la transforment, qui l'utilisent. Et ça, c'est un réseau qui a commencé, qui a démarré relativement petit, qui a commencé en France, pas mal d'ailleurs dans le Sud-Est. Ça s'est bien développé. Des adhérents, on en a un peu dans tous les pays d'Europe. L'idée, c'est travailler ensemble, organiser des rencontres, faire des marchés. L'association, c'est vraiment pour donner de la force à chacun, de développer ses activités en lien avec les autres, etc. L'élément de base de l'association, c'est la charte de l'atelier, qui a 4 ou 5 points vraiment importants. Premier point de la charte, chacun s'engage à produire, à transformer, à utiliser des matières dont on connaît l'origine. C'est une chose très importante pour nous de savoir d'où vient la matière de base qui ensuite va être transformée. Vous savez, maintenant on est dans le cycle de la mondialisation absolue. Les choses se baladent de par le monde dans tous les sens. La laine qui est produite par les moutons d'Australie va en Chine d'abord pour être lavée et filée. Elle est tricotée peut-être en Bulgarie ou bien tissée au Maroc. Tout ça, ça bouge sans arrêt. Et à la fin, il n'y a plus personne qui sait de quoi il s'agit, comment c'est fait, ni rien du tout. Pour nous, ce qui est important, c'est savoir d'où vient la laine. Le mieux, c'est si c'est tel éleveur, telle race de moutons. Bon, des fois, on fait aussi des mélanges parce que ça peut avoir des intérêts. Mais on sait au moins globalement, la région d'où ça vient, etc. Ça, c'est un premier point. Après, le deuxième point, c'est que chacun connaisse ou participe à une bonne partie de la chaîne de transformation. C'est-à-dire, une fois que la laine elle est tondue, donc sur le dos du mouton, on doit passer par un certain nombre d'étapes pour arriver à la valoriser correctement. Et ce qui pour nous est très important dans cette association, c'est qu'on se connaisse. C'est-à-dire que les gens qui filent ou bien utilisent les tissus, ils sachent qu'est-ce que représente le travail des autres, combien de temps ça prend, quelles sont les difficultés. Par exemple, un éleveur de moutons, ben, y a des bonnes et des mauvaises années. C'est important pour celui qui travaille la laine après de savoir aussi l'histoire de ce qui s'est passé dans l'année avec les moutons, avec l'élevage, etc. Et dans l'autre sens, c'est aussi important que les éleveurs de moutons, ils aillent voir, ben, par exemple, une usine qui fait du tissage, des gens qui font de la couture de vêtements, qui se rendent compte à quel point C'est important que la laine qui l'a tondue, elle va suivre ses circuits. Si elle est irrégulière, s'il y a par exemple, il a laissé des marques de peinture sur le dos de ses moutons, ben les petits points rouges, on va les retrouver dans le tissu final. Donc que chacun apprenne vraiment à connaître le travail des autres pour s'imaginer les conséquences que peut avoir tout ce qu'ils vont faire tout au long de la chaîne. Après, dans la charte, il y a une chose très importante, c'est l'entraide entre les différents adhérents. C'est-à-dire qu'on n'est pas concurrents, on fait des choses différentes, on peut tricoter, on peut tisser, on n'a pas le même style, on n'a pas la même personnalité. Le feutre, c'est encore tout à fait autre chose. Donc même si, comme ici, on se retrouve sur un même marché, eh ben, il y a des produits tellement différents qu'on peut être côte à côte et au contraire, ça renforce plutôt l'intérêt de l'ensemble d'avoir toute cette diversité. Autre point de la charte qui est important, aucun produit qui est fabriqué, ça doit toujours se passer dans le cadre du respect des droits de l'homme. C'est une charte qui a été établie en 1989 dans la création de l'atelier. Je dois dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas grand monde qui se préoccupait de mode éthique ou de choses équitables, de choses comme ça. Mais pour nous, c'était très important que dès le départ, les choses se passent avec des gens qui travaillent dans des conditions correctes, des salaires corrects, des conditions de travail dignes. Et le dernier point de la charte, toujours s'attacher à faire des produits de qualité. Et des choses qu'on produit peut-être, même sûrement en moins grande quantité, mais qui vont durer. Voilà.
Si je comprends bien, cette association, l'atelier, pourrait faire l'objet d'une émission à elle toute seule. Bon, ça fera sans doute un deuxième épisode à cette émission. Mais revenons à nos moutons. Vous savez, ceux qui ont accepté de parler à mon micro. Je leur ai demandé ce qui, selon eux, pourrait améliorer la filière dont ils sont les acteurs.
Que les gens achètent plus.
Et comment on peut faire pour que les gens ils achètent plus ?
Bah, qu'on les paye mieux, c'est déjà ça. Et quand on est dans la rue et qu'on voit les voitures qui passent, on se dit qu'il y a quand même encore de l'argent.
Il faudrait apprendre à développer autrement et à travailler ensemble différemment, en fait.
Comment ça pourrait être mieux pour demain ? Je pense que déjà, il faudrait que ceux qui sont au bout de la chaîne, donc les acheteurs, les consommateurs, puissent changer leur état d'esprit, changer leur pratique et se rendre compte en fait de tout le travail qu'il y a en amont et du coup accepter de pouvoir mettre de l'argent dans le produit final en fait, parce que c'est ça qui est difficile, c'est que avec la filière telle qu'elle existe aujourd'hui, tout le processus de transformation, on arrive à des coûts de vêtements qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve dans l'industrie. Donc souvent il faut faire toute une démarche auprès du consommateur pour réexpliquer tout ce qu'il y a derrière et que c'est impossible de vendre un pull à 20 euros ou 30 euros. La filière textile pour demain, c'est un changement d'état d'esprit des consommateurs, mais qui est déjà en train de s'opérer, donc par le biais de salons comme ça, de foires et de travail, de vulgarisation au sens positif du terme. C'est ce qui participe à faire ça, quoi. Alors moi, en fait, j'ai un statut un peu particulier parce que je travaille avec un berger, mais je ne suis pas au domaine... Je travaille pour lui et pour la partie transformation, et voilà, mais je ne suis pas dans la partie production de la laine. Donc je connais un peu, mais pas au quotidien, quoi. Donc ce que je sais de ça, c'est qu'aujourd'hui... ce qui est difficile, c'est que lui, il a plein d'activités différentes. Il est aussi menuisier, apiculteur, et c'est ça qui permet d'équilibrer en fait la partie textile. Aujourd'hui, il pourrait pas vivre seulement de la partie textile. Donc ça, c'est un fait, et c'est ça qu'il faudrait améliorer. Et pour ça, qu'est-ce qui pourrait changer au quotidien ? Je pense que c'est pas facile parce que j'allais dire augmenter aussi, mais je sais que lui par exemple il tient au fait d'avoir un troupeau à taille humaine parce que il a une façon de s'occuper de ses bêtes qui est vraiment particulière, où il apporte beaucoup de soins, et s'il avait 700 moutons ça n'aurait rien, le rendu final n'aurait rien à voir. Donc du coup je sais que lui il ne veut pas non plus trop agrandir les choses, donc ça peut pas venir de là. Après
pense que ce qui pourrait améliorer, c'est, j'en reviens au bout de la chaîne, c'est si on vendait plus de produits finis, en fait, du coup, un équilibre pourrait se créer plus facilement, en fait.
Ben, à peu près comme elle se passe ici, plein de petites personnes qui font plein de choses sympas. Là, on sent qu'il y a un besoin d'entreprises qui puissent faire des boulots comme laver, filer, teindre, tout ça. Donc, qu'il y ait des petites entreprises qui puissent faire ça pour toutes ces petites personnes, là, d'une manière plus facile. Mais il faudrait du coup qu'il y ait plus de personnes qui achètent. Je crois qu'elle est déjà en train de se faire. Après, il faut le subventionner, quoi. Il faut que tout le monde achète des choses à ces personnes. La filière textile idéale, elle est presque déjà là.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Là, on est dans une phase où j'ai l'impression que les choses essayent de se reconstruire un petit peu, avec des producteurs qui essayent de vendre des choses à des gens directement, alors qu'il y a 30 ans, on avait perdu tout espoir d'arriver à faire ce genre de choses, enfin quasiment, quoi. Il faudrait être plus nombreux, il faudrait qu'il y ait à nouveau une demande plus importante du côté des consommateurs aussi. On essaye de proposer des produits qui peuvent intéresser des gens parce qu'ils vont avoir une démarche de consommateur autre chose que d'aller à Défi Mode pour acheter le truc le moins cher possible, dernière mode, et puis c'est tout. Et essayer d'amorcer des nouvelles démarches, de se vêtir, de s'entourer de matières un peu plus sympathiques que de synthétiques, quoi.
Ah oui, les consommateurs. Parce que, à écouter cette émission, on pourrait croire qu'il n'y a que des exposants à cette fête de la laine. Mais il y a aussi des consommateurs. Écoutez voir.
Pourquoi vous venez acheter des trucs à la fête de la laine ?
Parce que j'adore l'artisanat.
Qu'est-ce qui fait que vous achetez des trucs un peu chers ?
Ben parce qu'on n'a pas l'occasion d'acheter à d'autres endroits pareil, quoi. Donc, c'est vraiment la création. Il y a une différence quand même avec prêt-à-porter.
Et puis souvent, c'est des modèles uniques.
Il y a quand même des facilités de paiement, quand même, hein, faut le dire. On se laisse faire, quoi.
Non, mais c'était pas non plus à des prix fous, quand même. Hein.
C'est de la qualité.
Ah oui, on a vu des belles choses, mais à des prix extraordinaires. Et des belles chemises.
Aussi.
Ah oui, la belle chemise à 150 euros, elle me plaisait bien. Surtout qu'à côté, il y avait une veste qui allait bien avec, à 200 et quelques. Du coup, t'en es vite pour 1000 euros sur le dos.
Je sais que je viens ici parce que c'est justement des personnes que je trouve assez militantes, finalement, puisqu'elles essayent de vivre de leur travail alors que c'est minutieux, long. Elles jonglent avec, justement, il faut mettre des prix pas trop chers, en même temps il faut se payer. Et je crois que je vais m'acheter de la laine à tricoter.
Ah ouais, tu tricotes.
Un petit peu, j'ai envie de me faire des guêtres.
C'est quoi le plus quand tu fais toi ?
Ben, c'est que c'est souvent moins cher déjà, voilà, et que je peux faire exactement comme je veux. Après, effectivement, il faut prendre en compte que ça va être long et qu'on ne sait pas si on va arriver jusqu'au bout ou pas.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un de ces jours ?